Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique édition du mardi 5 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebudia pour commencer les titres. Au Gabon, une transition dans la liesse populaire pour faire table rase hier lors de l'investiture du nouveau président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Au Niger, le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein prédit un départ rapide des soldats français et espère une entente avec la CDAO. Au Mali, une figure pro-junte, Ben Le Cerveau, en garde à vue après des propos sur la transition. En RDC, arrestation et suspension dans l'armée et la police après la répression d'une manifestation qui a fait une cinquantaine de morts mercredi dernier à Goma, au Nord Kivu. Le président russe Vladimir Poutine promet de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains dans les prochaines semaines. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Des milliers de Gabonais ont célébré hier dans la Liesse l'investiture du nouveau président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, à Libreville. Le point avec Alexandrine Hologno.
Une foule de milliers de personnes s'était formée depuis les premières heures du jour sur l'esplanade de la mosquée Hassan II, qui jouxte le palais présidentiel, afin d'assister à la cérémonie d'investiture du nouvel homme fort du Gabon, qui a chassé du pouvoir Ali Bongo Ondimba, qui le détenait depuis 14 ans. « Nous ressentons la liberté, la joie, le bonheur », s'enthousiasme cette femme de 28 ans, parmi les premières arrivées pour s'assurer une place de choix au premier rang de l'histoire qui s'écrit, dit-elle. Avec elle, des milliers de personnes ont suivi dans l'euphorie la cérémonie sur des écrans géants, agitant des centaines de petits drapeaux tricolores, verts, jaunes et bleus, les couleurs du Gabon. Le général Brice Oligui Nguema, en prêtant serment comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée, a promis de rendre le pouvoir aux civils après la tenue d'élections crédibles. Devant des centaines de convives, dont des ministres déchus d'Ali Bongo et des caciques de son parti, mais aussi des ténors de l'opposition, le général les a exhortés à participer à l'élaboration d'une future constitution qui sera adoptée par référendum et de nouveaux textes plus démocratiques et respectueux des droits humains.
Au Niger, le premier ministre nommé par le régime militaire, Ali Mahaman Lamine Zein, a déclaré hier que des échanges sont en cours pour que les forces françaises basées dans son pays se retirent. Il dit aussi avoir bon espoir de parvenir à une entente avec la CDAO qui brandit la menace d'une intervention armée Yacouba Ouédraogo.
Rappelant que le gouvernement nigérien a dénoncé des accords militaires avec Paris, Ali Mahaman Lamine Zein a affirmé que les forces françaises sont dans une position d'illégalité. Il estime que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent. Ce qui nous intéresse, c'est, si possible, de maintenir une coopération avec un pays avec qui on a partagé énormément de choses, a dit le nouveau premier ministre nommé par les militaires. Depuis le coup d'État du 26 juillet, la CDAO exige que les autorités militaires restaurent l'ordre constitutionnel en libérant le président déchu, Mohamed Bazoum, et en le réinstallant dans ses fonctions. Sinon, elle menace d'intervenir militairement pour le faire. On s'attend à tout moment à pouvoir être attaqué. Toutes les dispositions sont prises. Ce serait une guerre injuste. Nous sommes déterminés à nous défendre si jamais il y a une attaque, a déclaré M. Zein. Jeudi, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ouvert la porte à une possible courte période de transition de 9 mois.
Par ailleurs, après une rencontre avec le premier ministre nigérien, l'ambassadeur de Chine à Niamey a déclaré hier dans une interview à la télévision nationale que Pékin entend jouer un rôle de médiateur dans la crise politique. La Chine étant partenaire économique majeur du Niger, principalement dans le secteur de l'énergie. Les deux pays construisent notamment un oléoduc de 2000 km, le plus long d'Afrique, destiné à exporter du pétrole brut à partir des champs d'Agadem, dans le sud-est nigérien, jusqu'au port de Sémé, au Bénin. Au Mali, Adama Ben Diarra, dit Ben le Cerveau, chef d'une association réputée proche des militaires au pouvoir, a été placé en garde à vue lundi à Bamako après avoir appelé au respect de la durée de la transition avant un retour des civils aux commandes. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès d'une source de sécurité. Il a été auditionné à la BIJ, Brigade d'investigation judiciaire, pour atteinte au crédit de l'État, a dit cette source sans préciser les faits exacts reprochés à M. Diarra, également membre du CNT, organe législatif installé par les militaires. Il a ensuite été placé en garde à vue lundi soir à la BIJ et doit être présenté ce matin à un procureur de la commune 6 de Bamako, a affirmé à l'AFP une source proche de cette unité. En RDC, le gouvernement a annoncé hier l'arrestation de deux responsables militaires après la répression d'une manifestation qui a fait une cinquantaine de morts mercredi dernier à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les autorités ont annoncé aussi avoir décidé le rappel à Kinshasa pour consultation du gouverneur militaire de cette province de l'Est ainsi que la suspension de deux officiers de police également rappelés dans la capitale, a annoncé lundi soir devant la presse à Goma le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Il fait partie d'une délégation officielle arrivée samedi de Kinshasa à Goma pour faire la lumière sur les événements du 30 août et dégager les responsabilités selon les termes du gouvernement. Des soldats érythréens ont continué à violer et exécuter des civils au Tigré après la signature, le 2 novembre 2022, d'un accord ayant mis fin au conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie, affirme Amnesty International dans un rapport publié ce mardi. Le conflit dans cette région, qui a opposé les autorités rebelles du Tigré au gouvernement fédéral éthiopien, épaulé par des milices des régions voisines de l'Amara et l'Afar, ainsi que par l'armée de l'Érythrée, a été marqué par d'innombrables atrocités imputables à l'ensemble des belligérants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'issue d'un sommet avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine a promis hier de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains dans les prochaines semaines. Moscou a mis fin mi-juillet à l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement les céréales pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Eric Manirakidza.
Nous sommes sur le point de conclure des accords avec 6 États africains auxquels nous avons l'intention de fournir gratuitement des céréales dans les prochaines semaines, a assuré en conférence de presse Vladimir Poutine, sans préciser les pays concernés. Il a reçu à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, son homologue turc. L'enjeu est de négocier l'éventuelle reprise à temps pour la récolte d'automne de l'accord céréalier, vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Vladimir Poutine s'est dit à nouveau prêt à envisager la possibilité de ressusciter l'accord dès que les livraisons de produits agricoles russes à l'étranger ne seraient plus entravées. Trouvé sous l'égide d'Ankara et des Nations Unies à l'été 2022, l'accord visait à protéger les exportations de céréales via les ports ukrainiens de la mer Noire. Le président turc a déclaré préparer de nouvelles propositions avec l'ONU pour obtenir des résultats, mais il n'a pas donné de détails à ce sujet. En revanche, la Russie a de nouveau ciblé des machines agricoles et des bâtiments de production dans le district d'Ismaël, dans le sud-ouest, dont le port, le long du Danube, est devenu crucial pour les exportations ukrainiennes.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a l'intention de se rendre en Russie pour discuter avec le président Poutine de vente d'armes de Pyongyang à Moscou pour sa guerre en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé lundi la Maison-Blanche Rosine Munezero.
Comme nous l'avons déjà dit, des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement, a déclaré Adrienne Watson, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Et nous savons que Kim Jong-un souhaite que ces négociations continuent, avec notamment un échange diplomatique au plus haut niveau en Russie, a-t-elle ajouté dans un courriel à la presse. Mercredi, le porte-parole en chef du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, s'était déjà alarmé de l'avancée rapide de ces négociations sur de futures livraisons d'armes de Pyongyang à Moscou et avait sommé le régime communiste de cesser ces discussions. Ces armements seraient utilisés contre l'Ukraine, avait ajouté l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas Greenfield. La semaine dernière, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et le Japon ont déclaré que tout accord visant à accroître la coopération entre la Russie et la Corée du Nord violerait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant les ventes d'armes à Pyongyang, résolution que Moscou a elle-même approuvée.
Minute Éco, Mohamedou Humpha.
Le plus grand élevage de rhinocéros au monde, situé en Afrique du Sud et qui abrite 2000 spécimens, a été racheté par l'ONG African Parks, a annoncé lundi l'organisation dans un communiqué. Le richissime homme d'affaires sud-africain John Hume, 81 ans, avait ouvert cet élevage en 2009 à moins de 200 km de Johannesburg. Ployant sous les coûts exorbitants de son projet, il avait mis sa propriété aux enchères en avril dernier. La Compagnie nationale de pétrole de Libye a annoncé dimanche que la production quotidienne de pétrole du pays s'établissait actuellement à 1204 millions de barils. Le pétrole et le gaz constituent une source majeure de revenus pour la Libye. Toutefois, le secteur a souffert de conflits armés et de la fermeture des champs pétrolifères et des ports au cours des dernières années. Le gouvernement tanzanien s'est lancé dans un programme visant à renforcer les instituts de recherche agricole afin de leur permettre de mener des recherches sur la production d'huile de palme et de graines de tournesol de haute qualité, a annoncé vendredi au Parlement le vice-ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce. Selon lui, cette décision vise à mettre fin à la forte dépendance de la Tanzanie à l'égard des huiles comestibles importées.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce mardi des quarts de finale de la Coupe du Monde de basketball qui se déroule en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Oui, la Lituanie affronte la Serbie et l'Italie fait face aux États-Unis. Demain, l'Allemagne défie la Lettonie et le Canada joue contre la Slovénie. À noter que c'est le Soudan du Sud qui représentera l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Après son succès 101-78 sur l'Angola, c'est un nouvel exploit pour ce pays qui disputait son tout premier mondial.
Transfert, Mendy s'engage avec Lens.
Le milieu international sénégalais libre de tout contrat s'est engagé avec le RC Lens pour deux saisons. L'annonce est faite par le club vice-champion de France dans un communiqué. Nampalis Mendy, 31 ans, formé à Monaco, où il a débuté en professionnel, a explosé chez le voisin, l'OGC Nice, avant d'être transféré à Leicester, avec lequel il a été relégué en fin de saison dernière. Ce milieu défensif, réputé pour son abattage, est un renfort de poids dans l'entrejeu des sang et or, qui souffrent en ces débuts de saison depuis le départ de leur capitaine emblématique ivoirien, Seko Fofana, transféré cet été au club saoudien d'Al Nassr. Milieu expérimenté, Mendy compte 27 sélections avec les Lions de la Teranga, sacré champion d'Afrique en 2022, et totalise plus de 250 matchs en Ligue 1 et Premier League. Lens, deuxième du dernier exercice, occupe la 17e place de Ligue 1 avec un seul point et a concédé 10 buts après 4 journées. En Ligue des champions, les Lensois affronteront le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven dans le groupe B.
Tennis avec l'US Open, début des quarts de finale aujourd'hui.
Chez les dames, l'Américaine Coco Gauff va affronter la Lettonne Jelena Ostapenko, qui a créé la surprise en éliminant hier la Polonaise numéro 1 mondiale Iga Świątek. Conséquence, Świątek va perdre au profit de la Bélarusse Arina Zabalenka la place de numéro 1. Ostapenko a remporté Roland-Garros en 2017, atteint les demi-finales à Wimbledon en 2018, les quarts à l'Open d'Australie cette année, mais n'avait jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows. Chez les hommes, le choc américano-américain entre Frances Tiafoe et Ben Shelton a été programmé en clôture de journée. Bien avant, l'autre américain, Taylor Fritz, fera face au Serbe Novak Djokovic.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, les conditions internes d'une transition réussie sont en voie. C'est le message qu'a tenté de véhiculer le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn lors d'une conférence de presse hier à Niamey. Plus d'un mois après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du général Abdourahmane Tiani. Il s'est aussi exprimé sur les relations entre le Niger et la France. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Mesdames et messieurs,
pendant plus de deux heures d'horloge, Ali Mahaman Lamine Zeyn a entretenu les journalistes sur les préoccupations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de transition.
Le plus important pour nous, c'est la question de la sécurité. Là-dessus, le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent à assurer la sécurité du territoire. C'est une tradition pour l'armée nigérienne. Tous ceux qui connaissent le Niger savent que depuis toujours, nous avons réussi à conserver et à sauvegarder la territorialité de notre pays. On a entendu dire qu'elles ont abandonné le terrain de la lutte contre le terrorisme pour s'emparer du pouvoir. Cela n'est pas exact. Sur la sécurité, nous avons consacré l'ensemble de notre énergie pour protéger les citoyens nigériens et tous ceux qui y vivent sur notre territoire.
La situation économique est également un sujet majeur des autorités de transition.
Malgré l'embargo, les deux mois, fin juillet et août, nous avons, par le biais de l'effort de mobilisation des ressources internes, assuré le paiement des salaires de la fonction publique et les salaires des forces de défense et de sécurité. Puis il y a un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. C'est un programme qui va intégrer évidemment tous les besoins des Nigériens pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo qui, vous le savez, est injuste, illégal, inhumain, inacceptable.
Les échanges avec la CEDEAO sont en cours, elles sont en bonne voie, a dit le Premier ministre, mais dans le même temps.
En tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué, et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Et on ne parle pas au hasard.
Dernier point, les relations avec la France.
Nous faisons tout pour qu'avec la France, nous ayons une bonne coopération. Le gouvernement français peut raconter ce qu'il veut. Ce qui nous intéresse, c'est si c'est possible de maintenir une coopération avec ce pays avec lequel nous avons partagé énormément de choses. Mais vous ne pouvez pas exiger, une fois qu'on a dit qu'un ambassadeur qui s'est mal comporté, on lui demande de partir, il n'a pas à rester ici. C'est chez nous. Vous pensez qu'on va envoyer la police rentrer dans l'ambassade? Non, nous sommes respectueux de la réglementation. C'est une enclave. Nous reconnaissons que c'est un territoire français, personne n'ira à l'intérieur. Mais s'ils sortent, c'est une personne en situation irrégulière. On souhaite simplement que très rapidement, la raison prévale, que cette personne puisse se dire qu'elle n'a rien à faire chez nous. Allez, merci.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger. Sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle, succédant ainsi au président Ali Bongo, évincé la semaine dernière par un coup d'État. Compte rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Du beau monde au point de ne pas contenir dans une et même salle toute la population qui a fait le déplacement du palais Rénovation à Libreville. Mais des écrans géants ont été placés à l'extérieur de la présidence pour faciliter la retransmission de la prestation de serment du nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema. Son discours n'est pas passé inaperçu auprès de beaucoup de Gabonais. Bokbou Nziengui, citoyen gabonais.
Nous sommes nés dans une période où nous n'avions pas à dire quoi que ce soit. Et avec le général Oligui, nous pouvons enfin nous exprimer. Je parle de la population gabonaise. Ça, c'est de un. De deux, nous avons compris avec le général Oligui dans son discours que nous aurons enfin des institutions fortes et non des hommes forts.
Sur le parking de l'esplanade de la mosquée Hassan II de la capitale gabonaise, une association des personnes handicapées porte un plaidoyer sur leurs conditions sociales avec l'espoir de se faire entendre des nouveaux maîtres du pays. Joël Okoko, personne handicapée.
Je pense bien que les jours à venir, il va parler de personnes handicapées parce qu'on est payé à 75 000 par an. Déjà, c'est pas bon. Les vélos, il n'y a pas. Les Gabonais veulent, les handicapés veulent les maisons, des logements. Les handicapés, ils ont le droit comme tout le monde. Donc, moi, je confirme son nouveau président qui est arrivé.
Parmi les chantiers chers à une grande partie de la population, la lutte contre les détournements de fonds publics figure en bonne place. Jude Makamamba, influenceur.
Nous avons souffert dans notre chair. Nous avons eu des enfants qui ont perdu leur bourse. Nous avons eu des salles de classe qui n'ont pas été construites. Nous avons eu des routes qui n'ont pas été construites. C'est à cause de toutes ces personnes qui n'ont pas pu exécuter un certain nombre de tâches qui leur avaient été, destinées.
Depuis le 31 août dernier, date du coup de force militaire contre le régime des Bongo, les Gabonais aspirent à plus de justice sociale et de liberté. Charles Kombiela, Taximan.
Le Gabon de demain doit se faire des nouveaux Gabonais. Des nouveaux Gabonais. Pourquoi des nouveaux Gabonais? Parce qu'on ne peut pas encore entendre que demain, le ministre des Affaires étrangères est le neveu ou le petit-fils d'eux. Il nous veut le nouvel nom.
Le passage d'un régime civil cinquantenaire à un régime militaire, une nouvelle ère s'ouvre sur le Gabon. Les nouveaux maçons sont donc attendus au pied du mur. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Congolaise Hortense Kavuo-Maliro, militante des droits des personnes handicapées, est candidate déclarée à la présidentielle de décembre 2023 en RDC. Le mouvement citoyen La Voix des Marginalisés participe à la mobilisation des fonds pour financer son dépôt de candidature de 100 000 dollars. Les dossiers de candidature sont recevables du 9 septembre au 8 octobre. C'est la course contre la montre pour la jeune économiste, jointe par Nathalie Barge à Goma dans le Nord Kivu, Hortense Kavuo-Maliro.
J'ai toujours demandé aux gens de me voir comme une personne à part entière, pas comme une personne que mon handicap puisse influer sur X, Y choses que je suis capable de faire. Moi, j'ai toujours dit qu'on est handicapé quand on n'est pas en mesure d'apporter sa pierre, d'apporter sa contribution, n'est pas en mesure de participer activement, de contribuer à la société, au développement de la société. Mais quand on est compétente, mon handicap ne doit pas jouer un rôle comme une personne qui ne vaut rien. Je fais même des choses que les soi-disant non-handicapés n'ont pas pu réaliser. Si tu me vois que je suis handicapé, je suis un vaurien, tu es ignorant. Et je dois continuer à te sensibiliser avec des actions pour dire voilà, je fais ceci. Montre-moi ce que toi tu as pu faire.
Quelle a été la réaction de votre entourage lorsque vous avez annoncé votre intention de vous présenter?
En tout cas, j'ai eu beaucoup de communications de partout. Hortense, pourquoi vous voulez à la magistrature suprême? Pourquoi vous ne voulez pas aller à la législative nationale, provinciale ou à la municipalité et tout ça? Pourquoi vous voulez seulement à la magistrature suprême? Il y a des réponses qui sont claires dans la Constitution et même dans la loi électorale. Et je les répondais sur base de ces articles-là. Maintenant, je me disais, mais où est-ce que vous allez trouver 100 000 dollars pour la caution? Après, quand le mouvement citoyen, la voix des marginalisés, a compris que j'ai annoncé ma candidature, ils sont en train de collecter les fonds pour moi, pour soutenir ma candidature. Et si on n'arrivait pas à trouver cette somme, donc là, la course va s'arrêter. Mais nous, on continue à se battre pour que la course ne puisse pas s'arrêter. Parce que si la course s'arrêtait, ça serait dommage parce que la majorité de la RDC et dans une situation, dans une vie médiocre.
Vous êtes indépendante, sans aucun parti politique, donc sans base électorale prédéfinie. Comment attirer les potentiels électeurs dans de telles conditions ?
J'ai annoncé ma candidature comme candidate indépendante. Parce que je suis de la société civile. Alors, oui, c'est difficile, c'est un grand défi, mais je ne peux pas avoir peur. Je suis au Nord-Kivu ici. Je suis en mesure de défendre les conditions des personnes des Nord-Kivu, de Ituri, où, là où il y a des guerres, là où nous vivons au quotidien la guerre. Je viens de quelque part où on a traversé toutes ces situations-là. C'est pourquoi j'interpelle les femmes. Quand nous puissions nous coaliser, les femmes à tous les niveaux, elles doivent faire des stratégies de telle manière qu'elles puissent booster à tous les niveaux ces processus électoraux.
Hortense Kavuo-Maliro, candidate déclarée à la présidentielle de décembre 2023 en RDC.
Alexandrine Frolonio avec vous cette semaine dans Washington Forum. Le Kenya accueille un sommet dit historique sur le climat visant à faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte. Le président William Ruto, hôte de la rencontre, souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaines à la COP28. Comment l'Afrique peut-elle jouer un rôle décisif dans la lutte contre le changement climatique tout en favorisant une croissance économique verte? Rendez-vous ce jeudi avec nos invités dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Enfin, une start-up danoise espère révolutionner la façon dont les sports de combat collectent des statistiques et des analyses de performance en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser le système. Une technologie qui pourrait changer l'arbitrage de la boxe, Blanche Sanou.
La technologie développée par la start-up Jaber est un système avancé de l'intelligence artificielle avec une technique de vision par ordinateur appelée Deep Strike. Il analyse le nombre de coups qu'un combattant donne ou reçoit et en combien de temps. Alan Sveshroff est ingénieur en automatisation et cofondateur de Jaber.
Deep Strike est une intelligence artificielle pour la boxe et elle fonctionne à l'aide de la vision par ordinateur, de l'apprentissage automatique et des réseaux de neurones. À partir d'un flux vidéo d'un match de boxe, le Deep Strike vous donne un décompte automatisé des frappes lancées, comment l'adversaire reçoit les coups. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec deux ou trois caméras et des trépieds, vous avez un rendu qu'on peut convertir et livrer comme une production télévisuelle professionnelle. Le tout automatisé.
Alan Sveshroff a testé Deep Strike au Camden Boxing Club de Londres pour la première fois pendant un combat de boxe amateur. Le système a pu non seulement afficher une suite complète de statistiques, mais également modifier les angles de caméra, suivre l'action et afficher les moments forts entre les rounds. Écoutons à nouveau le cofondateur de Jaber, Alan Sveshroff.
Je pense que cela va être absolument transformateur pour les clubs. Chaque club dans le monde sera en mesure de fournir à ses combattants une analyse des performances qui, pour l'instant, est limitée à un très petit groupe de personnes. Et ils peuvent diffuser leurs combats comme s'ils avaient une équipe de télévision professionnelle sur place et la monétisent également s'ils le souhaitent.
La boxe est en proie à des soupçons de corruption et les fondateurs de Jaber affirment qu'on lui demande à plusieurs reprises si l'intelligence artificielle pourrait éventuellement remplacer l'arbitre sur le ring. Quelque chose qu'Alan Sveshroff considère comme hautement politique, mais affirme que dans un test non réel, le travail pourrait se faire.
Je veux dire que je ne vais pas monter sur le ring avec toi et dire pause ou autre, mais en tant que juge, en théorie, oui. Vous pouvez l'utiliser en tant que juge.
Alan Sveshroff dit que lorsque des tests avec des vidéos de matchs ont été enregistrés, Deep Strike a fait un très bon travail pour déterminer le vainqueur d'un combat. Le fondateur de Jaber espère mettre une version bêta de sa technologie à la disposition du public au plus tard cette année.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.